Les cours du Collège de France, Thierry Coquan, chaire informatique et sciences numériques.
Cette leçon va avoir deux parties. Dans la première partie, donc, je vais présenter donc deux résultats de base qui peuvent se formuler en logique d'ordre supérieur, mais qui ont deux preuves possibles. Donc, une qui se formule en logique d'ordre supérieur et l'autre qui ne se formule pas en logique d'ordre supérieur, mais qui se formule en théorie des types dépendant avec univalence. Et la raison pour laquelle ça ne se formule pas en logique d'ordre supérieur, c'est qu'on a besoin du principe du choix unique pour une notion d'unicité à isomorphisme près. Donc on ne peut pas capturer cet argument en logique d'ordre supérieur. Et ensuite, dans la deuxième partie de cette leçon, donc je vais présenter une définition possible récursive que je trouve élégante, donc des espaces d'Eilenberg-MacLane en théorie des types avec univalence. Alors, donc pour présenter ces deux arguments, donc je vais ça se place dans la partie mathématique, donc qui utilise la notion de faisceau. Donc dans les années 60, il y a une convergence assez surprenante entre des travaux en géométrie algébrique et des travaux en logique intuitionniste. Géométrie algébrique, donc les gens ont étudié les faisceaux, et donc il y a un résumé de la notion de faisceau dans ce papier de Pierre Deligne, donc comme j'y étale les points de départ, que je vais utiliser en fait dans cette. Je vais utiliser un argument qui se trouve dans ce papier. Et d'un autre côté, donc Dana Scott donc, a généralisé les travaux de Bett, ce qui présentait un modèle de la notion de suite de choix, donc en logique intuitionniste, en utilisant une notion de faisceau, en fait, donc sur des arbres. Et Dana Scott a remarqué qu'on pouvait étendre cette interprétation, donc une interprétation topologique de l'analyse intuitionniste. Et ensuite, Dana Scott et après Lovir, inspirés par les travaux de Dana Scott, ont remarqué qu'en fait, donc, la logique d'ordre supérieur, telle que formulée par Church, donc en utilisant cette notion de type simple, était très appropriée pour exprimer ce qui se passait dans ce modèle en termes de faisceau. Et d'un autre côté, donc, il y avait une autre influence en logique, c'est les travaux sur la notion de forcing, donc de Cohen. Et Dana Scott a remarqué que cette notion de forcing pouvait se reformuler en termes de modèle booléen, qui est aussi un exemple de modèle de faisceau. Alors, donc, qu'est-ce qu'un faisceau sur un espace topologique? Donc, c'est un préfaisceau. On a vu ce que c'était qu'un préfaisceau. Donc, une collection d'ensembles F de U pour chaque ouvert de l'espace topologique avec une opération de restriction qui vérifie donc, les lois que j'ai présentées dans des leçons précédentes. Mais, donc, pour être un faisceau, ce préfaisceau doit satisfaire une condition de recollement, donc, qui est la condition suivante. Donc, si on a un recouvrement d'un ouvert U et des aimants locaux, donc AI qui sont définis dans F de UI, qui sont compatibles deux à deux, c'est-à-dire que AI restreint à l'intersection est égal à AJ restreint à cette intersection, alors on peut les recoller de manière unique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, donc, si cette condition est satisfaite, donc, il existe un unique élément A dans F de U, tel que pour tout I, A restreint à UI est égal à I. Donc, c'est une collection de recollement des faisceaux. Et donc, un exemple de cette situation, c'est si on a une application continue P, donc de E dans en B, on peut définir F de U comme étant l'ensemble des sections continues de cette application restreint à U, sur U. Donc voilà deux exemples donc, de faisceaux, donc c'est donné par une application P. Donc le premier exemple, donc, c'est le ruban de Möbius. Donc on voit qu'il y a des sections globales et il y a des sections locales. Donc pour tout point, sur un voisinage de ce point, on peut définir une section de cette application, mais il n'y a pas de section globale. Donc c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, donc c'est l'hélice. Donc là, il y a aussi, c'est le même phénomène. Donc on a des sections locales, mais il est impossible de trouver une section continue globale pour cette application P. Alors, donc, en géométrie algébrique, Grothendieck a réalisé que la collection de tous les faisceaux sur un espace présente une forte similarité avec la collection de tous les ensembles, mais pour une version intuitionniste. Donc on peut définir le produit de deux faisceaux, ou on peut définir donc, l'exponentielle B puissance A si B est un faisceau, si A et B sont des faisceaux, et on obtient un nouveau faisceau. Donc on obtient un modèle en fait, de la théorie des types simples avec produit cartésien et exponentiel. Et donc pour interpréter la logique de Church, on a besoin d'interpréter le type des propositions. Et il y a une interprétation donc, de ce type des propositions qui est le faisceau oméga, tel que oméga de U, donc c'est l'ensemble des cribles sous l'ouvert U. Donc dans cette interprétation, donc, et c'est ça qui est la connexion avec la logique intuitionniste, donc cette interprétation donne un modèle de la théorie des types simples de Church, mais pour une version intuitionniste de cette théorie. Donc en général, la loi du clair exclu n'est pas vérifiée. On n'a pas nécessairement pour une proposition P, P ou non P. Donc si on regarde dans cette interprétation, une proposition va être interprétée par essentiellement un ouvert de l'espace topologique, et non P donc, va être interprétée par l'intérieur du complément de U. Et donc, en général, ça va être interprété par la réunion des deux ouverts. Et en général, cette réunion-là, donc, si la frontière de U n'est pas vide, ça ne sera pas l'espace tout entier. Donc, l'axiome du choix, l'axiome du tiers exclu, le principe du tiers exclu peut ne pas être valable et n'est pas valable en général. Et donc, l'axiome du choix, qui, avec l'axiome d'extensionnalité, entraîne le tiers exclu pour la théorie des types simples de Church, ne sera pas aussi valable pour la plupart des modèles topologiques. Donc, comme je l'ai dit, un autre aspect de des modèles de faisceaux, donc c'est les modèles booléens. Et Dana Scott, donc, quand il a travaillé sur ces modèles booléens, il s'est rendu compte de l'analogie avec des travaux qui étaient faits en géométrie algébrique. Et c'est lui qui a réalisé, donc il connaissait la théorie des tissons de Church, et il a réalisé que c'était très approprié pour exprimer ce qui se passe dans ces modèles-là. Et alors, comment c'est lié avec ce que j'ai présenté dans les leçons précédentes, c'est que si l'axiome du choix, en général, n'est pas vérifié dans ces modèles, en fait, l'axiome du choix unique est toujours satisfait. Alors, je rappelle comment l'axiome du choix unique est formulé dans la théorie des types simples de Church. Donc l'axiome du choix unique dit que si on a un élément qui vérifie une proposition et que tout autre élément qui vérifie cette proposition est égal à cet élément, alors on a une opération iota qui trouve un témoin qui vérifie la propriété psi. Donc ça peut se réécrire de cette manière-là. Donc avec ça, c'est une notation pour l'existence unique. Et on a un axiome d'extensionnalité pour les fonctions qui est vérifié dans le modèle des faisceaux. Alors l'axiome du choix est aussi formulé par Church, donc ça va être avec une opération que je vais noter epsilon, en suivant Hilbert. Donc là, s'il existe un élément, alors cette opération trouve un témoin qui vérifie la formule psi. Alors, la situation, c'est que dans ces modèles de faisceaux, l'axiome du choix unique est vérifié, mais l'axiome du choix n'est pas vérifié en général. Alors, pourquoi l'axiome du choix unique est vérifié ? C'est que, quelle est l'interprétation de l'existence dans ces modèles de faisceaux ? L'existence ne signifie pas existence globale, de trouver un élément global qui vérifie la formule, mais ça vérifie une existence locale. Donc, que cette formule soit vraie dans le modèle, si F est un faisceau sur l'espace topologique, ça veut dire qu'on peut trouver un recouvrement de l'espace par des ouverts UI, et tel que pour chaque UI, on peut trouver un élément AI dans F de UI qui vérifie la formule psi. Et alors, donc ça, c'est la sémantique de l'existence. Et donc, ce qui peut se passer, c'est que les éléments AI qui existent localement ne peuvent ne pas être compatibles. Donc là, il n'y a aucune condition qui dise que ces éléments doivent être compatibles 2 à 2. Et donc, il peut très bien se passer qu'il n'est pas possible de les recoller en éléments global qui satisfait psi. Donc ça, c'est la situation pour le modèle, en fait, pour le modèle qu'on a vu donc sur l'espace, sur le cercle. Donc on a vu le ruban de Möbius et l'hélice. Donc pour ces deux exemples, donc la formule suivante, donc pour l'hélice par exemple, la formule suivante, donc où psi est trivialement vrai. Donc cette formule-là est vraie dans ce modèle topologique, mais donc il n'y a pas d'élément global dans H, donc on ne peut pas trouver, en fait on a existence locale, mais ces éléments ne sont pas compatibles 2 à 2. Donc c'est vraiment cette situation-là. Donc, par contre, si on a existence unique, alors donc les éléments AI sont nécessairement compatibles 2 à 2. En effet, donc si on a AI sur F de UI et AJ sur F de UJ, donc comme l'existence est unique, sur l'intersection, on va bien avoir que AI restreint à UI inter UJ est égal à AJ restreint à UI inter UJ. Donc si on a existence unique et si on a existence locale, on peut recoller les éléments 2 à 2, et donc on peut les recoller en élément global, et donc c'est ça qui va interpréter l'opération IOTA de Church. Donc l'action du choix unique est donc valide dans un modèle de faisceau, alors que l'action du choix peut ne pas être valide. Donc pour, comme je l'ai dit, pour l'hélice, on n'a pas d'élément global, mais on a une existence locale. Alors donc ça c'est un exemple d'un Z-torseur. Et c'est cette notion-là que je vais donc qui va être étudiée dans cette leçon. Alors donc c'est quoi un G-torseur en général? Si G est un faisceau de groupe, un G-torseur, donc c'est un faisceau T qui est muni d'une action, donc le groupe agit sur T, tel que localement, T muni de cette action est isomorphe à G muni de l'action canonique, donc par translation. Donc une intuition, ça peut être, donc si on prend pour G un espace vectoriel, un torseur, donc c'est comme un espace affine. Donc c'est comme une copie du groupe, mais on a oublié l'origine. Donc c'est ça l'intuition de ce que c'est qu'un torseur. Alors donc le ruban de Möbius définit un Z sur 2Z torseur. Donc il n'a pas d'élément global, mais localement, il est isomorphe à Z sur 2Z. Donc comme il n'a pas d'élément global, donc on dit que c'est un Z sur 2Z torseur non trivial. Donc G lui-même est un G torseur, et avec muni de l'action canonique par translation, et c'est le torseur trivial. Donc, si G est un faisceau de groupe sur un espace topologique X, donc en fait, une définition possible du premier groupe de cohomologie, c'est en fait, peut être défini comme l'ensemble des G torseurs à isomorphisme près. Donc là, on peut montrer que sur l'intervalle, donc tous les Z-torseurs sont en fait triviaux. Mais par contre, donc sur le cercle, donc, il y a des Z-torseurs non triviaux, comme l'hélice, et en fait on peut montrer que ce groupe-là est égal à Z, et que pour Z sur 2Z, donc ce groupe est égal à Z sur 2Z. Donc cela veut dire que sur le cercle, donc, il n'y a que deux Z sur 2Z-torseurs à isomorphisme près. Alors, donc voici un lemme. Donc il y a une preuve très simple qui est, utilise donc le choix unique. Donc cet argument-là donc, va pouvoir se traduire en théorie des types simples avec l'axiome du choix unique. Donc c'est que si on a deux morphismes entre deux G-torseurs, c'est nécessairement un isomorphisme. Donc la collection des G-torseurs forme un groupoïde qui est, donc on note BG. Donc, alors pourquoi c'est un isomorphisme? C'est parce que localement les T est isomorphe à G. Et donc, localement, le morphisme entre T et T' va avoir un inverse, et cet inverse est unique. Donc, on va pouvoir recoller ces inverses pour obtenir un inverse défini globalement. Donc là, c'est une application de ce principe de recollement de choix qui donne une sémantique au principe du choix unique. Alors, la collection des G-torseurs forme un groupoïde, et comme je l'ai dit, donc G lui-même est un groupoïde, est un torseur, qui s'appelle le torseur trivial, que je vais noter TG. Donc c'est un groupoïde qui est pointé, donc il y a un point de base qui est le torseur trivial. Et alors donc ce qu'on peut remarquer, c'est que le groupe en fait des automorphismes de TG est en fait exactement G. Donc si je prends un automorphisme de TG, c'est possible de voir que cet automorphisme est en fait déterminé par l'image de l'identité. Donc l'automorphisme donc doit vérifier si alpha est un automorphisme de TG. On doit avoir donc alpha de G dot H est égal à alpha de G dot H. Et donc alpha va être déterminé par alpha de 1, si on est l'unité. Donc en fait, on aura... Et on peut vérifier que ça définit donc un isomorphisme, tout automorphisme alpha, on va associer alpha de 1, entre les automorphismes de TG et le groupe G lui-même. Alors, donc voilà. Donc ça, c'était... un exemple d'argument qui utilise le principe du choix unique. Et donc, maintenant, je veux donner donc un exemple qui, naturellement, utilise le principe du choix unique, donc à isomorphisme unique près. Donc, c'est le résultat suivant, donc le lemme. Donc, si on a un morphisme de groupe, maintenant, F de G dans H, donc en fait, je peux fabriquer maintenant un foncteur donc entre le groupoïde donc BG et BH, tel que ce foncteur, si je regarde ce qui se passe sur un automorphisme de TG, non, automorphisme de TH, donc ça c'est isomorphe à G, isomorphe à H, donc je vais retrouver le morphisme F. Donc voilà le problème. Donc c'est si T est un G torseur et F une application, un morphisme de F, G dans H, donc comment définir le H torseur correspondant F de T? Donc on veut un moyen de fabriquer à partir d'un G torseur et un morphisme de G dans H un H torseur. Et donc, dans ce papier, deux lignes donnent, dans trois sections, ils donnent un résumé de la notion de torseur, des résultats de base sur les notions de torseur et les notions de gerbe. Et en fait, donc, ils donnent une preuve en deux lignes de l'existence de ce foncteur, et qui, en fait, donc, utilise un principe du choix unique, mais à isomorphisme unique près. Alors, donc, l'idée clé pour avoir cette définition de F de T, c'est de définir F de T avec une application alpha T dans F de T qui vérifie cette condition-là. Donc je veux définir, étant donné un G torseur T, je veux définir F de T, le torseur correspondant. Et donc, la remarque, c'est qu'en fait, F de T lui-même n'est pas défini à isomorphisme unique près, mais si je prends les couples T alpha, avec alpha une application de T dans F de T qui vérifie la condition suivante, donc alpha de T dot X est égal à alpha de T dot F de X, donc là T est dans T, X est dans G, donc F de X est dans H. Donc si je regarde ces couples T alpha, donc la remarque, c'est que maintenant, ce couple T-alpha est déterminé à isomorphisme unique près. Donc c'est ça l'argument. Alors maintenant, ce couple existe localement, parce que localement, T est isomorphagé, si T est isomorphagé, je peux définir l'image et alpha en prenant H lui-même, le torseur lui-même, TH. Et de plus, comme il est défini, ce couple est unique à isomorphisme unique près, j'ai pas de problème pour recoller ces couples qui existent localement. Donc là, il y a un phénomène un peu subtil, c'est que maintenant, je dois recoller des torseurs et pas des éléments. Donc en fait, la condition pour recoller des torseurs, c'est la même que la condition pour recoller des espaces vectoriels. Donc au lieu d'être une condition de recollement 2 à 2, ça va être une condition de co-cycle, donc recollement 3 à 3. Et comme les isomorphismes sont uniques, déterminés uniquement, j'aurai bien la condition de co-cycle va être vérifiée et je peux recoller ces torseurs, ces couples en un couple unique. Donc là, ça s'est passé sous silence dans l'argument de deux lignes, tout ça. Mais en fait, dans ce qu'on va voir, c'est que cet argument s'écrit très bien en théorie des types dépendants. Alors, donc, si je compare l'argument de deux lignes dans ce papier, donc dans l'argument de Giraud, dans ce livre, donc là, la preuve est différente. Donc on veut construire F de T, et là, Giraud construit directement F de T, donc on veut fabriquer un H torseur, et pour le fabriquer, donc il prend le produit T fois H et le quotient par cette relation d'équivalence. Donc ça, c'est un argument qui utilise, donc au niveau logique, ça utilise juste le quotient. Cet argument-là, qui construit directement ce torseur-là, peut être écrit donc en théorie de la logique d'ordre supérieur. Donc parce qu'en logique d'ordre supérieur, donc j'ai l'opération de produit, j'ai l'opération de quotient, donc je peux représenter cette notion-là. Donc l'argument de deux lignes, par opposition, ne construit pas explicitement ce quotient, cette image-là, mais en fait, donc, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise une caractérisation universelle de cette notion de T-alpha. Donc la preuve de Giraud donc, s'écrit en théorie des types simples, elle utilise une opération de quotient. La preuve de deux lignes, donc, qui est textuellement la suivante. Donc, si T est un G-torseur, F de G dans H un morphisme, F de T est défini, c'est un H-torseur muni d'une application comme ça vérifiant cette égalité. Donc là, il note de la même manière donc, alpha et F. Et ceci le caractérise à isomorphisme unique près. Si on veut capturer cet argument dans un système formel, on peut utiliser la théorie des types dépendants avec une divalence. Donc on a besoin de cette notion d'unicité à isomorphisme unique près. Donc maintenant je vais présenter donc, ce que devient cet argument-là, donc, qui concerne des faisceaux et des torseurs, en théorie des types. Donc d'abord, en théorie des types, donc, on peut définir ce qu'est un groupe dans un univers U donné. Donc un groupe, donc ça doit être un ensemble, donc zéro type, muni d'une opération binaire vérifiant les lois usuelles de groupe. Donc on a le type de groupe et on a la notion de groupe pour un univers U donné. Alors donc si A est un type, donc un groupoïde, et petit a un élément de grand A, alors donc le type des boucles, des lacets, A égale A, a une structure de groupe pour la composition de chemin, la composition de preuve d'égalité. On peut former la collection de tous les groupes dans un univers donné, et on peut montrer, donc en utilisant l'univalence et en utilisant le fait que l'isomorphisme de groupe est équivalent à l'égalité des groupes dans ce type, en utilisant l'univalence, on peut montrer que la collection de tous les groupes forme un type, donc un groupoïde. Donc la collection de tous les groupes, donc ça peut être défini. Donc à partir de type sigma, donc sigma G dans U, et puis après sigma, donc je dois dire que G est un ensemble, donc avec ma notation donc, is7 de G, et puis après, donc je vais avoir une opération de un élément neutre, que je vais noter 1, et une opération de produit. Et puis j'écrirai donc les lois que doit vérifier cette opération de produit, donc associativité et le fait que 1 est un élément neutre. Donc ça, c'est une formule de la théorie des types. Et je peux montrer donc, que ce type-là, le type de tous les groupes dans un univers donné, est un groupoïde. Alors si j'ai, maintenant, je vais montrer comment définir la notion de torseur, donc le type des torseurs, des G-torseurs, en théorie des types. Donc là, B de G, donc ça va être défini comme étant... Donc pour G, un élément de ce type-là, je vais définir B de G comme étant donc, l'ensemble des T dans U. Alors je dois dire que T est localement habité, mais pas globalement habité. Et pour ça, donc, j'utilise donc, la troncation, cette opération-là, troncature propositionnelle que j'ai introduite. Et ça, ça va capturer le fait que j'ai existence locale et pas existence globale. Donc ça capture le fait que T existe et habité localement. Et ensuite, donc je vais écrire que j'ai une action T sur G. Donc je vais écrire que j'ai une application, l'action de T croix G dans T. Et puis les axiomes donc, doivent vérifier les torseurs, donc qui se résument par le fait que si je regarde cette application-là, donc une manière de l'exprimer, c'est que si je regarde cette application-là, donc qui a TG associe T de votre G et T, donc cette application-là est une bijection. Donc ça, c'est une manière d'écrire que j'ai donc un torseur en théorie des types. Donc, et ceci, donc, comme T, donc là, si j'écris une conséquence de cette action-là, du fait que cette action est une bijection, et de l'existence locale, c'est que T est un ensemble, et donc en fait, ce que je vais écrire ici est une proposition. Alors, on peut prouver en théorie des types que comme le type des groupes est un groupoïde, le type des G-torseurs est aussi un groupoïde. Donc B de G, je peux montrer en théorie des types que B de G est un groupoïde. Donc avec la terminologie de aussi un type. Ça, c'est en utilisant donc l'univalence. Alors maintenant, donc, je vais réécrire donc, l'argument de deux lignes en théorie des types. Donc l'argument de deux lignes, c'était de dire que si je regarde ce type des G-torseurs, et que si F, donc je peux définir ce que c'est qu'un morphisme de groupe, F un morphisme de G dans H, T un G-torseur, alors je vais essayer de définir l'application, quelle doit être l'image de T via F. Donc là, je dois définir le type de ces paires T alpha, et je peux le faire de cette manière suivante. Donc je dis que je considère l'ensemble de ces, le type de ces couples T alpha. Donc je vais avoir donc je veux non, pardon, c'était donc c'est F de T alpha ici, qui est défini de manière déterminée de manière unique. Donc je vais définir les couples donc T prime alpha, où T prime est un H torseur, alpha une application de T dans T prime qui vérifie cette condition là. Donc je vais regarder donc tous les couples T prime alpha qui vérifient cette condition là, donc alpha de T dot X égale alpha de T dot F de X. Donc pour tout T et pour tout X. Donc pour tout T dans T et pour tout X dans G. Donc ça, je peux écrire ça donc en théorie des types. Et maintenant, la remarque qui correspond au fait que ce couple-là est déterminé à isomorphisme unique près va correspondre au fait que ce type, en fait, est contractile. Donc je peux montrer que ce type est contractile. Donc je vais... ce que je vais montrer, c'est isContr de S de T. Et ça, donc, ça va correspondre au fait que T'alpha est déterminé à isomorphisme unique près. Et donc, en fait, donc, ce type-là, qui ressemble à un type de structure, donc comme ces types-là, formés avec sigma, il se trouve que ce type est en fait contractile. Donc, c'est un moins 2 type. Si vous voulez. Donc. Et la preuve, donc si on regarde la preuve en théorie des types, la preuve suit très près l'argument de deux lignes. Donc pourquoi ? Parce que c'est donc être contractile, c'est une proposition. Donc pour montrer que cette proposition-là est valable, en fait, donc je peux utiliser le fait que pour montrer une proposition, psi, donc c'est ce que j'écris. Pour montrer que donc la caractérisation de la troncature propositionnelle, c'est que cette implication-là est valable si je peux construire un élément à partir d'un élément de T, je peux construire psi. Donc en fait, ça veut dire que pour montrer donc pour montrer un cas particulier, donc pour montrer que is contre de T de S de T, comme ceci est une proposition, donc pour montrer cette proposition-là, je peux introduire en fait un élément de T, puisqu'un torseur, donc par définition, un torseur est habité localement. Donc en fait, comme j'ai... car on a l'existence locale de T. Donc j'ai bien, pour montrer ça, je peux supposer que j'ai un élément dans T. Et à partir de cet élément de T, je peux essayer de montrer que X contre de S de T. Et alors, donc maintenant, je peux finir la preuve, donc exactement en suivant... l'argument de deux lignes. Donc c'est assez facile de voir que si un torseur est habité globalement, donc si on a T, en fait T devient isomorphe au torseur trivial, T de G. Donc ça c'est parce que, à cause de, donc par définition de ce que c'est un torseur. Donc en fait, pour montrer S de T, je peux supposer que T est le torseur trivial. Donc on est dans le cas où T est le G-torseur trivial, et dans ce cas, donc, le fait que ce type-là est contractile suit directement de l'univalence. Donc en fait, ça découle de l'univalence, parce que donc on peut prendre, ce type-là est habité, parce que je peux prendre pour T', je peux prendre TH, et c'est très facile à voir que deux éléments quelconques de ce type-là, quand T est le torseur trivial, sont égaux en utilisant l'univalence. Donc on montre qu'ils sont isomorphes et donc égaux par l'univalence. Donc dans l'argument de deux lignes, ceci correspond exactement au fait que deux éléments quelconques de ce type-là, quand T est le torseur trivial, sont isomorphes avec un unique isomorphisme. Donc ça correspond, deux éléments quelconques de ce type-là sont égaux. Donc ainsi, de cette manière-là, on peut représenter un argument qui utilise l'axiome de description, ou l'axiome du choix unique, où unicité signifie unique isomorphisme près. Donc isomorphisme près. Donc ça, c'est comment on peut traduire un exemple, donc de traduire une preuve qui utilise une forme forte du principe du choix unique en théorie des types avec univalence. Donc, alors ce type-là, B de G, donc, comme je l'ai dit, donc, on a un élément spécial dans B de G qui est le torseur trivial. C'est un exemple de type avec un point de base, TG. Donc on va noter, je vais noter comme ça, UPB. Donc c'est le type des types pointés, au type avec point de base. Donc c'est sigma x dans U, x. Et je vais noter comme ça, donc les applications pointées. Donc si j'ai deux types A et B avec des points de base, je vais noter de cette manière-là. Donc le type des applications de A dans B qui envoie le point de base de A dans le point de base de B. Donc ce que je viens de montrer, c'est que ce type-là est toujours contractile. Et alors, David Verne a en fait remarqué que dans cette preuve, en fait, si on regarde ce type, le type pour tout T dans B de G, S de T, c'est en fait la fibre de F pour l'application boucle. Donc, c'est une remarque. Donc, ça veut dire, une autre manière, comme un produit de type contractile et contractile, donc cet argument-là implique que cette application de boucle est en fait une équivalence. Donc, pour tout morphisme de G dans H, la fibre de cette application, la boucle, est contractile. Donc, ce qui veut exactement dire que cette application-là est une équivalence. Donc, par contre, donc si je regarde maintenant en théorie des types le fait que tout morphisme entre torseurs est un isomorphisme, donc cet argument-là, je peux l'écrire en théorie des types, mais en fait, je ne vais pas utiliser de la théorie des types, je vais utiliser quelque chose qui peut se traduire en théorie des types simples. Donc si alpha est un morphisme de G torseur, donc je peux montrer cette proposition, que alpha a un inverse unique, donc en utilisant le fait que T est non vide, donc ce type, cela, parce que donc cette proposition-là sera vraie dès que T est le torseur trivial. Et pour montrer une proposition, donc je peux supposer que j'ai un élément dans T. Et donc je peux vérifier que cet inverse est unique, donc ce qui correspond en termes de faisceau, donc ça correspondait au fait que localement j'ai un inverse, et comme l'inverse est unique, je peux les recoller. Donc là il y a exactement le même phénomène qui se passe en théorie des types, c'est que j'ai une existence locale pour T, et je peux construire un inverse, mais cet inverse ne va pas dépendre du choix de l'élément dans T. Donc l'inverse est unique, et donc on peut je peux utiliser l'opérateur iota de Church pour trouver l'inverse de ce morphisme entre les torseurs T et T'. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on peut traduire donc un élément, un argument sur les faisceaux. On peut les traduire en logique, en interprétant donc cette troncature propositionnelle comme étant la notion d'existence locale. Donc un autre exemple aussi dû à deux lignes, d'une preuve qui utilise le principe du choix unique, où l'unicité est à isomorphisme unique près. Donc c'est dans ce papier-là, où deux lignes fait un survey des résultats de base sur la notion de faisceau. Et deux lignes montrent que si R est un faisceau d'anneaux, donc alors le groupoïde de Picard, donc c'est le groupoïde des R modules localement libres de rang 1, et le groupoïde des donc R times torseur, donc ça c'est le groupe multiplicatif de R, ces deux groupoïdes sont équivalents. Donc là il y a exactement le même phénomène, c'est que donc il y a deux preuves possibles. Donc une preuve dans ce papier-là qui utilise un principe du choix unique, mais où unique veut dire unique à isomorphisme unique près. Et donc il y a une preuve dans Stax qui a une preuve où cette preuve utilise une construction explicite qui ne nécessite pas ce principe du choix unique, mais juste un quotient, une opération de quotient. Alors, donc en théorie des types, ça peut être exprimé de la manière suivante. Donc, étant donné un anneau R, donc on note mode de R, donc le groupoïde des R modules, donc on forme le type des R modules, et on montre que c'est un groupoïde. Et je, donc, comme R module particulier, j'ai le R module libre de rang 1. Et le fait que M soit localement libre de rang 1, donc ça peut être exprimé par cette égalité-là. Donc M est égal à R1, mais seulement localement. Donc seulement pour la troncature propositionnelle. Donc je peux former ce type-là, L, et ceci va représenter le type des R modules qui sont localement libres de rang 1. Et de même, donc, je peux former le groupe multiplicatif de R, je peux former le type des torseurs pour ce groupe multiplicatif, et je peux définir cette application de L dans les torseurs à tout module M associé ce type-là, qui dit que M, donc une égalité entre M et R, et le lemme, donc, qui se montre directement en théorie des types, c'est que ceci est une équivalence. Et ceci est exactement l'argument de deux lignes. Donc si on l'écrit dans le langage des faisceaux, donc il suit cet argument-là. Et donc plus généralement, ça peut généraliser. Donc là j'avais le groupoïde des R modules. Je peux le généraliser à un groupoïde quelconque. Si j'ai un groupoïde avec un point de base et LA, donc ce type-là, cette application-là, donc il y a X associe cette égalité, le type des égalités, c'est naturellement, il a une structure de A égale A torseur, et en fait, cette application-là est toujours une équivalence. Donc il suffit de le montrer quand T est le... Donc c'est le même argument, toujours le même argument. On veut montrer que c'est une équivalence. Être une équivalence est une proposition, et on veut montrer qu'une fibre est contractile. Être contractile est une proposition. Donc pour le montrer, on peut remplacer l'existence locale de cette égalité par une existence globale. Et donc il suffit de le montrer dans ce cas-là, et la preuve est directe dans ce cas. Donc une fois de plus, la clé est que être contractile est une proposition et que tout torseur T vérifie cette égalité-là. Donc sémantiquement, tout torseur est localement trivial. Alors, donc les torseurs peuvent être utilisés pour définir le premier groupe de cohomologie. Et si L est abélien, donc on peut définir donc le deuxième groupe de cohomologie, et c'est ce que fait donc très rapidement Deligne dans le papier que j'ai cité. Et donc la remarque de Deligne, c'est la suivante: c'est le langage des torseurs et des gerbes est essentiellement équivalent à celui des cocycles de Tchetch. Il est plus commode et plus intrinsèque. Donc si on accepte de parler d'objets définis à isomorphisme unique près, ou, donc ce que dit Deligne, c'est deux catégories, définies à équivalence unique, à isomorphisme unique près et de recollement de champ. Donc là, ça commence, si on veut, au niveau ensuite, donc le niveau des gerbes. Donc là, ça devient plus compliqué, parce que là, on a besoin de parler d'équivalence unique à isomorphisme unique près. Et en fait, donc ce qui est remarquable en théorie des types, c'est que la notion de contractibilité, d'être contractile, capture toutes ces notions d'isomorphisme, d'unicité. Et donc ce qu'on va voir, c'est une généralisation pour tout N, en théorie des types, de ce qui se passe pour les torseurs. Donc je vais rappeler d'abord donc, la stratification donc, introduite par Wawowski, que j'ai utilisée, déjà, que j'avais déjà introduite. Donc un moins deux types, c'est un type qui est contractile, et être un N plus un type, c'est que pour tout A0 et A1 dans A, le type des égalités est un N-type. Donc on a vu qu'être un N-type implique être un N plus un type. Parce que donc, si tout type contractile est aussi une proposition, et par induction sur N, donc être un N-type implique être un N plus un type. Alors on peut introduire une stratification duale, qui est la notion de connexité. Alors moins 2 connexes, ça va être que tout type est moins 2 connexes. Et N plus 1 connexe va être que A est localement habité. Et pour tout A0 et A1 dans A, le type des égalités est N connexe. Donc on peut, dualement, si un type est N plus 1 connexe, alors il est aussi N connexe. Donc 0 connexe, ça correspond intuitivement à connexe par arc. Donc étant donné deux éléments, on peut trouver un chemin entre ces deux éléments. 1 connexe, ça correspond intuitivement à simplement être simplement connexe. Alors, ce que je vais introduire, donc c'est Kn de U en général, mais d'abord K1 de U. ça va être le type des 1 types qui sont pointés et qui sont 0 connexes. Donc K1 de U, donc c'est donc sigma X dans U, sigma X dans X, et un type de U et 0 connexe de U. Et je vais noter groupe de U, donc la collection des groupes dans U. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est suivre l'argument qu'on a donné pour les torseurs. Et en fait, on montre par le même argument, donc on montre que l'application boucle de K1 de U dans groupe de U. Donc ça, c'est un ensemble, parce que A est un type. Donc c'est un ensemble qui a une structure de groupe. Donc je peux bien considérer cette application-là. Et en fait, donc l'argument que j'ai présenté montre que cette application, la boucle, est pleinement fidèle. Et comme l'ensemble des torseurs donc, est un intype qui est zéro connexe, en fait, c'est une application qui est essentiellement surjective. Donc c'est une équivalence, d'après ce que j'avais présenté. Donc on peut montrer donc, sans axiome du choix qu'une application essentiellement surjective et pleinement fidèle est une équivalence. Donc le type K1 de U, donc qui a priori, donc là j'ai une situation vraiment surprenante, c'est que j'ai un type des 1 types, mais en fait, ce type lui-même est équivalent au type des groupes. Donc en fait, K1 de U, c'est égal au type des groupes dans U. Donc, par univalence, je peux montrer que j'ai cette égalité-là. Et donc j'ai une collection d'un type, mais qui forme pas un. On s'attendrait à ce qu'il forme un deux types, mais il forme simplement un type. Et donc on peut reformuler donc, la théorie des groupes en travaillant avec les un type pointés, qui sont zéro connexes, et les applications pointées. On n'a jamais besoin de définir la notion de groupe de manière algébrique. Donc c'est le point de vue qui est adopté dans ce livre. Donc, avec la plupart des résultats, donc il reformule la théorie des groupes à partir de cette égalité-là. Donc, la plupart des résultats sur les groupes peuvent être en fait vus comme des résultats sur des types pointés. Et la plupart des résultats de ce livre donc, sont formalisés dans ACDA. En fait. On peut se demander, par exemple, donc, pour un groupe, on a la propriété d'être abélien. Donc l'opération est commutative. Comment ça va se traduire en termes de type pointé? Donc on a une caractérisation élégante. Donc la propriété pour le groupe des lacets d'être abélien, c'est équivalent à la propriété que A est homogène. Donc on a cette égalité-là. Pour tout X dans A, le type pointé AA est égal au type pointé A, X. Et donc l'argument que j'ai présenté, sur les torseurs et donc comment relever une application sur les groupes en une application sur les torseurs a été généralisé donc par David Verne qui a présenté donc une preuve nouvelle. C'est un résultat qui était connu déjà, mais il a donné une preuve élégante en théorie des types du résultat suivant. Donc plus généralement, donc là c'est le si A est n connexe et B est un 2n type, alors, pour tout élément dans A et pour tout élément dans B, on peut considérer cette application-là, qui a une application pointée, donc associe l'application sur les espaces des lacets à l'application boucle. Cette application-là est une équivalence. Donc, c'est présenté dans ce papier-là. Et une preuve un peu différente donc a été formalisé par Louise Leclerc donc dans ACDA, présenté dans ce papier-là. Et alors, donc, ce qui est remarquable dans cette preuve, c'est que la preuve n'utilise que des résultats de base sur la notion de connexité. Donc, par exemple, on a ce lemme-là, Donc si, avec la notion de connexité de n-type que j'ai présentée, donc si A est n-connexe et B est un n-type, alors l'application donc constante, combinateur K de Schoenfinkel, de B dans B puissance A, cette application-là, est une équivalence. Un autre résultat de base, c'est que si A est n-connexe, l'application des values est P de X, une famille de n plus K plus un type sur A, alors toutes les fibres de l'application d'évaluation sont des K-types. Donc, et ces preuves-là se formulent très très bien de manière formelle en théorie des types. Donc là, j'ai voulu mettre dans les transparents donc la preuve dans AGDA. Donc ça, c'est par exemple la définition d'être connexe. Donc être moins 2 connexe, c'est toujours vrai. Donc c'est le type unit. Qui est toujours vrai, et être n plus 1 connexe, c'est que A est localement habité, et pour tout A0 à 1 dans A, alors le type des égalités est n connexe. Donc ça, on a la définition formelle que j'ai présentée, se présente directement en théorie des types. Et le résultat qui dit que l'application de B dans B puissance A est une équivalence, si B est un n type et A est n connexe, donc se traduit... Je voulais mettre donc la preuve dans AGDA suit exactement la preuve informelle qu'on peut faire. Donc c'est un argument par induction sur n. Donc dans le cas où le cas de base, donc moins 2, donc B est contractile, donc l'application de B dans B puissance A est directement une équivalence. Donc si B est contractile. Et ensuite, donc, si B est n plus 1 type et A est n plus 1 connexe, donc on montre que cette application est une équivalence en utilisant le fait qu'être une équivalence est une proposition. Et donc je peux introduire un élément A dans A et en fait je peux construire un inverse de cette application-là en associant. Si j'ai un élément dans A, donc je peux associer à toute fonction U de A dans B, je peux associer U de A, et je peux montrer donc que c'est un inverse. Par induction, je peux montrer que ceci est un inverse de l'application constante de B dans B puissance A. Et cet argument-là donc, se traduit dans AGDA. Donc je voulais présenter ça. Donc ça, c'est un point que je trouve intéressant, c'est que dans ce genre d'arguments, donc la distance entre l'argument formel et l'argument informel n'est pas si grande, comme ça peut être dans d'autres projets de formalisation. Alors, donc un résultat, un corollaire de ces lemmes, qui ont des preuves relativement simples, c'est le fait surprenant suivant. C'est le résultat suivant, c'est que si j'ai un type pointé qui est n connexe, et B, un n plus 1 type pointé, alors ce type des applications pointées de A dans B est un ensemble, toujours un ensemble. Donc là, il y a vraiment un phénomène de réduction de la taille homotopique des types qui est assez remarquable. Alors donc, on peut généraliser ça donc, à tout n. Donc c'est l'opération de débouclage. Donc, pour n, je vais noter kn de u, le type des n types pointés qui sont n moins 1 connexes, avec n strictement plus grand que 0. Donc, j'ai une application de boucle qui est une application de kn de u, donc kn moins 1 de u. Et en fait, donc ce qu'a remarqué David Verne, c'est que le raisonnement qu'on a fait sur les torseurs se généralise en une preuve que c'est une application pleinement fidèle et aussi. On peut montrer que c'est une application donc, essentiellement surjective. Donc ça, c'est une analyse de David Verne, qui est, donc je rappelle, donc ça c'est K1 de U, et donc Kn de U, ça va être exactement la même chose, donc, mais avec N. N type, N moins 1 connexe. De donc ça c'était x. Donc on peut se demander en général, si on a un type pointé, est-ce qu'on peut le déboucler ? Donc est-ce qu'on peut trouver, étant donné un type pointé XX, est-ce qu'on peut trouver un type donc Y, tel que le, si je considère l'espace des lacets de ce type pointé, il est isomorphe, donc il est égal au type pointé XX. Donc en général, ce n'est pas possible de déboucler un type pointé. Donc un exemple, c'est que si je prends le type pointé donc des G torseurs, pour G non commutatif, donc je sais que je ne peux pas le déboucler parce que je sais que pi 2, le deuxième groupe d'homotopie, est toujours commutatif. Donc c'est impossible de déboucler le type des torseurs sur G si G n'est pas commutatif. Mais donc David Vern a analysé cette notion quand est-ce qu'un type pointé peut être débouclé, et il a trouvé une condition suffisante pour qu'un type pointé puisse se déboucler. Donc c'est une condition un peu technique, mais aussi là c'est des preuves relativement simples en théorie des types dépendants qu'on peut analyser, et un corollaire donc, de cette analyse, c'est le résultat très général suivant, qui est si je prends un 2n type pointé n connexe, alors je peux toujours le déboucler, et en fait je peux le déboucler de manière unique. Donc le type des débouclages d'un type pointé comme ça, si A est 2n type n connexe, alors je peux le déboucler de manière unique. Donc l'ensemble des solutions de ce problème-là est un type contractile. Donc là, ça ne marche pas, et ça c'est bien, ça ne marche pas pour les 1 type 0 connexe. Donc là, parce que juste on avait les torseurs, qui en général sont des torseurs pour des groupes non commutatifs. Donc là, ça,
1 type 0 connexe, ça ne marche pas. Mais pour les 2 types 1 connexe, donc ça va marcher.
Et donc, si je prends un 2 type qui est 1 connexe, je peux le déboucler et je vais obtenir un 3 type qui est 2 connexe. 3 est inférieur à 4. Donc je vais pouvoir le déboucler, et ainsi de suite. Donc ça permet de définir de cette manière-là donc le type, donc l'espace d'Eilenberg-MacLane par débouclage.
Donc de la manière suivante. Donc si donc le résultat d'abord, un corollaire de l'analyse de David Vern, c'est que c'est le résultat suivant, c'est que si donc si L est commutatif, donc si L est un groupe abélien, ce type-là peut se déboucler. Donc le type de L torseur peut se déboucler. Et maintenant, une fois que je le déboucle, j'aurai un 2 type qui est inconnexe. Donc K de L2, un 2 type qui est inconnexe. Donc par le résultat de David Vern, je sais que je peux le déboucler de manière unique. Et je vais, donc j'appelle KL3 le débouclage. Donc là, ça va être un 3 type qui est 2 connexe. Et je peux continuer. Donc à chaque fois, je peux appliquer ce résultat général de débouclage. Et c'est comme ça que je vais définir donc, les espaces d'Eilenberg-MacLane, en utilisant ce résultat général de débouclage des 2n types n connexes. Et en fait, donc, ça c'est une définition possible récursive des espaces d'Eilenberg-MacLane en théorie des types. Et donc une remarque, c'est que donc, comme je l'ai défini, c'est des types qui utilisent un sigma type sur l'univers U. Donc a priori, ce type, donc par exemple le type des G torseurs, n'est pas un type dans U. Donc toujours la même chose, le paradoxe de Girard. Donc ça, c'est un type qui n'est pas dans U. Mais en fait, donc, j'ai présenté ce principe de remplacement général. En fait, on peut montrer que ces types-là, par exemple le type des torseurs, est en fait équivalent, donc égal à un type qui est dans U. Donc je peux en fait définir tous ces types-là. Par équivalence, ils vont être égaux à des types qui sont dans U, et donc je peux supposer que tous ces types-là sont dans U si je pars d'un groupe abélien qui est dans U. Et donc ça, c'est une application assez surprenante, donc ce principe de remplacement. Donc je rappelle le principe de remplacement. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que si j'ai un type qui est U petit, donc qui est dans U, et si j'ai une application de A dans B et B est localement U petit, donc les types d'égalité de B sont dans U, alors l'image, si alpha est une application de A dans B, B est localement U petit. Alors l'image de alpha est U petit. Et donc la manière dont on utilise ce principe général, donc ce principe qui est vérifié constructivement dans les modèles de l'univalence, je peux l'appliquer donc, par exemple au type B de G, et je vais l'appliquer de cette manière-là suivante, c'est que l'application, je regarde le point de B de G, donc j'ai une application de 1 dans B de G, et en fait, comme B de G est zéro connexe, cette application-là, de manière surprenante, est surjective. Donc en fait, l'image de cette application-là, qui est le point TG, l'image est B de G lui-même. Et B de G, donc avec cette définition, il est localement U petit par univalence, parce que par univalence, l'égalité dans B de G est équivalent à l'isomorphisme, l'isomorphisme est bien dans U. Donc B de G est localement U petit, 1 est trivialement U petit, donc en fait j'en déduis que B de G est U petit. Donc le principe de remplacement est très très fort, et donc permet de remplacer cette définition des G-torseurs qui a priori n'est pas dans U, par une définition, je peux supposer que B de G, donc le type des G-torseurs, le débouclage de G, je peux le supposer être dans U. Donc on en déduit le résultat général suivant. Donc là, ce que j'obtiens, en fait, c'est une copie du type des groupes abéliens. Donc pour chaque N, je vais obtenir une copie des groupes abéliennes, qui est ce type Kn de U. Et ils vont être liés par l'opération de boucle, et l'opération de boucle va être une équivalence pour tout N. Et donc tous ces types sont équivalents aux types des groupes abéliens sur U. Donc tous ces types sont en fait des groupoïdes, et ils peuvent être munis d'une structure de catégorie, donc au sens de la leçon précédente. Donc j'ai un groupoïde, et je peux définir ce que c'est comme morphisme sur ce groupoïde. Donc si je prends le groupoïde des groupes abéliens, donc c'est la notion de morphisme usuel entre groupes abéliens, si je prends ce groupoïde-là, qui est un type de type pointé, la notion de morphisme, ça va être la notion d'application pointée. Et comme on a vu, donc l'application pointée est un ensemble, donc je peux définir une structure de catégories sur Kn de U, et toutes ces catégories-là sont équivalentes à la catégorie des groupes abéliens. Pour L, un groupe abélien, donc on écrit comme ça ce que j'ai défini ici, donc c'est l'espace d'Hallenberg-MacLane associé à L, et tout ceci donc est effectif. Si on a un modèle constructif de l'univalence, on peut construire tout ça de manière effective. Alors, donc je vais donner rapidement quelques applications de ces constructions. Donc la première application, donc c'est en utilisant la caractérisation universelle de KLN. Donc la caractérisation universelle de l'espace d'Hallenberg-MacLane, c'est que d'avoir une application pointée si A est un N-type, donc une application pointée de KLN dans AA est en fait la même chose que se donner un morphisme de L dans oméga N de A. Donc c'est une caractérisation universelle de KN de U. Et on peut utiliser ça, donc une preuve assez élégante, donc du fait que Pn de Sn est Z et que Pk de Sn est 0 si K est strictement plus petit que N, en remarquant que cette caractérisation universelle de l'espace d'Hallenberg-MacLane est en fait très proche de la caractérisation universelle de la N-sphère. Donc la différence, c'est que la N-sphère a cette caractérisation universelle suivante, c'est que l'application oméga N, donc c'est une équivalence entre ce type des applications pointées et ce type-là, mais pour un A quelconque, qui n'est pas supposé être un N-type. Et pour K, Z, N, ça satisfait la même caractérisation universelle, mais seulement si grand A est un N-type. Donc en fait, donc en utilisant cette égalité-là, qui est assez remarquable, en fait, qui est très simple, donc je vais juste donner la preuve de cette égalité. En utilisant cette égalité-là, donc on peut montrer par caractérisation universelle que la troncature, la n troncature de Sn est en fait Kzn. Donc voyons cette preuve-là. Donc je prends le type des applications pointées de AA, donc ça c'est les fonctions de A dans B, qui envoie f de a sur y. Et en fait, donc ce type-là, c'est la même chose que sigma f dans a dans b, de sigma y dans b, f de a égale y. Et là, j'ai un type singleton. Donc c'est un type qui est contractile. Donc en fait, ce type-là, donc c'est clairement équivalent, égal à celui-là. Parce que donc j'inverse les sigma. Et ce type-là, donc comme c'est un type contractile, ce type-là est égal à la flèche B. Donc ça, je voulais montrer cette preuve-là, parce que donc c'est un argument typique de ce qui se passe dans ce genre de preuve qu'utilise David Verne, c'est de reformuler un type en utilisant le fait qu'un type singleton est toujours contractile. Donc en utilisant cette égalité-là, je peux montrer donc, que KZN est la n troncature de Sn. Et donc, j'en déduis ce corollaire-là. Et donc, ça donne une preuve nouvelle de ce fait-là, qui est vraiment intéressante, parce que donc la preuve qui est dans le livre sur la théorie des types utilise le théorème de suspension, et la première preuve formalisée dans HACDOR utilisait la méthode encode-décode. Donc, et en fait, donc pourquoi les gens avaient voulu montrer ce résultat-là, c'était pour définir KZN comme étant la troncature, la n troncature de Sn. Donc là, en fait, c'était la manière, avant les travaux de David Verne, c'était la manière dont les espaces d'Albert-MacLane étaient définis en théorie des types, c'était en reposant sur ce résultat-là. Et ce qu'on a ici, c'est une définition directe des espaces d'Albert-MacLane, et on en déduit ce résultat-là. La grande application des espaces d'Allenberg-MacLane, c'est pour définir les groupes de cohomologie. Et la définition est très élégante, je trouve, en théorie des types. Donc c'est que si j'ai un type quelconque X et L, une famille de groupes abéliens sur grand X, alors je peux définir le n-ième groupe de cohomologie XL comme la troncation ensembliste de ce type-là, en utilisant l'espace d'Allenberg-MacLane. Donc ce qui se passe, c'est qu'en général, donc, ça, on sait que c'est toujours un n-type, parce que les n-types sont clos par exponentielle, mais il peut ne pas être zéro connexe. Donc il peut avoir des troncations ensemblistes non triviales. Et non, c'est ce qui peut se passer. Et en fait, on peut construire des modèles où on a des ensembles qui ont des groupes de cohomologie non triviaux. Donc là, ça permet, j'ai dit qu'on pouvait reformuler la théorie des groupes en utilisant les types pointés à la place. Donc ça permet de reprendre la théorie des groupes abéliens et les reformuler à travers la notion de type pointé. Donc par exemple, la notion de suite exacte, courte, pour des groupes abéliens, devient la notion de suite de fibration au niveau des types pointés. Ce qui m'intéresse dans ces travaux en particulier, donc, à part le fait que c'est une reformulation très élégante de la notion de groupe de cohomologie, puisque maintenant on a une définition des espaces d'Allenberg-MacLane, c'est que le traitement de cohomologie donc usuel des faisceaux utilise la notion de résolution injective qui repose sur l'axiome du choix. Donc c'est une technique qui permet de se ramener au cas... on a des faisceaux sur un espace topologique Et on se ramène au cas d'un faisceau sur un ensemble. Donc c'est une technique qui est appelée principe de localisation booléenne par Joyal, mais cette technique repose sur l'axiome du choix. Et ça, donc, on peut espérer que cette reformulation des groupes de cohomologie et de construction de l'espace d'Alembert-MacLane va permettre un traitement des groupes de cohomologie qui ne dépendent pas de l'axiome du choix. Donc, en conclusion, dans cette leçon, j'ai présenté deux exemples en mathématiques où on veut utiliser le principe du choix unique, où unique veut dire unique à isomorphisme unique près, ou unique à équivalence unique à isomorphisme unique près, et on peut exprimer ces raisonnements en théorie des types avec univalence. Et deuxième partie, c'est que les espaces d'Alembert-MacLane ont une définition récursive, comme débouclage, en partant d'un groupe abélien. Ceci permet de définir les groupes de cohomologie. Et un point sur lequel je voudrais insister, c'est que tous les résultats que j'ai présentés ont été formalisés, dans différents systèmes formels, et les preuves formelles ne sont pas si éloignées des preuves informelles. Donc ça aussi, c'est intéressant pour le projet de formalisation des mathématiques. Et je voudrais m'arrêter sur ce point-là.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.